Bonsoir Tristan. Bien, je commence mon rêve. C'est une ambiance sombre, un peu à la Batman et nocturne. Scène 1. Un ancien élève du pensionnat de mon enfance, qui s'appelle Courtois, se met au-dessus d'un immeuble et fait des gestes honorifiques pour appeler et accueillir une divinité mystique. Je regarde et je pense méchamment en me disant: s'il tombe dans le vide, ce serait amusant. Mais son point d'équilibre penche plutôt vers l'arrière, donc il ne peut pas tomber dans le vide, mais sur le toit. En tout cas, il rend honneur à une femme mystique indienne ou africaine. La femme lui répond et s'approche des airs vers nous, et elle arrive sur le toit de la maison, de l'appart, de l'immeuble, pardon. Et elle commence à faire des gestes protocolaires à tous les deux. J'imite les mouvements de cette femme, et c'est là que va commencer quelque chose. Scène 2, donc c'est une nouvelle scène, mais toujours dans le même rêve. Je suis avec un ami arménien d'Iran et ma mère. Quelqu'un me dit que je vais vivre quelque chose. Quelque chose va s'emparer de moi. Je vais au restaurant avec ma mère, qui ensuite va disparaître du rêve. Un pouvoir extraordinaire et sauvage entre en moi. On m'avait dit que j'allais vivre quelque chose, mais maintenant je sens qu'il y a un pouvoir qui rentre en moi. Mes yeux deviennent des boules de feu argentées, et je me retrouve avec un sabre lumineux, un peu comme dans la guerre des étoiles, de la même couleur que mes yeux. C'est-à-dire que mes yeux et l'espèce de sabre lumineux sont en feu argenté. C'est une ambiance sombre, mystique, démoniaque. Comme dans le monde des jeux de rôle, je commence à faire des grands gestes avec le sabre, comme si je devais me battre. Je bondis sur la table, tout le monde me regarde dans ce restaurant. Je ne sais pas comment réagir, je ne peux que subir. Scène 3. Mes deux meilleurs amis sont là. Un qui est très bon bricoleur va choisir un grille-pain d'occasion pour mon ami arménien. Celui-ci appelle sa femme pour voir s'ils ont vraiment besoin d'un grille-pain. Elle répond oui. Nous sommes tout contents parce que quand mon ami sélectionne un produit, il a l'œil expert. Scène finale. Un jeune brillant chercheur ami de la famille dort chez nous, dans l'appartement de mes parents, là où j'ai grandi, avec sa radio allumée. Mon père dort aussi sur le canapé-lit dans le salon. Ma mère et mon frère sont absents. Alors je me réveille dans cette scène, dans le couloir entre toutes les chambres dans la maison dans l'appartement de mon enfance, et tout le monde dort. Donc je vais chercher un magnétophone pour enregistrer mon rêve, mais je dois m'éloigner du couloir pour ne pas gêner mon père. Je vais dans la chambre que j'occupais enfant, qui est censée être, enfin qui est sa chambre quand j'ai quitté la maison. Lui dort dans le salon là, je sais pas pourquoi, et pas dans sa chambre, enfin dans ma chambre d'enfance. Cette chambre est délabrée. Il y a la porte, enfin la porte de la chambre a un morceau cassé. J'y vais et j'enregistre le rêve pour que Tristan me l'interprète. Voilà, c'est terminé.
Alors, quand vous dites lui, c'est qui lui?
Dans quel
Vous dites lui n'est pas dans ma chambre.
Ah oui, parce qu'en fait, quand j'ai quitté l'appartement de l'appartement familial, mon père a occupé, parce qu'il fait chambre à part avec ma mère, il a occupé la chambre que j'occupais quand je vivais chez eux.
D'accord,
Et
donc
dans le rêve, il est dans le salon.
quand vous dites lui, c'est votre père donc.
Oui, tout à fait.
Ok. Parce que je ne savais pas si c'était le savant, si c'était votre frère ou si c'était. J'avais pas pensé à votre père.
D'accord. Non, mon frère n'est pas là et le savant, il dort aussi.
D'accord, donc ce que l'on peut remarquer, c'est que dans chaque scène, ce sont les mêmes personnages qui reviennent, avec des costumes différents. Mais donc nous avons une symétrie dans les deux premières séquences, les deux hommes, la déesse, et donc dans la deuxième partie, votre mère.
D'accord.
Donc ce culte qui est rendu, cette dévotion, c'est donc face à la déesse mère. Et vous aimeriez que cette partie de vous qui est encore dans la dévotion, tombe. Malheureusement, elle est bien campée. Et vous-même, vous êtes pris par le protocole, puisque vous imitez donc les gestes que produit cette déesse.
D'accord.
Et la séquence s'achève, vous êtes avec donc cette pensée qui monte, quelque chose va se dérouler.
Oui.
Quelque chose va se produire. C'est quoi le terme exact ?
C'est une force qui une force démoniaque qui va s'emparer de moi.
Ça, c'est dans la deuxième scène. Hein.
Oui.
Mais dans la première, vous terminez la première scène en disant quelque chose va se passer ou va se dérouler.
Bah, c'est ce qui va. Depuis le moment où j'ai rendu ces honneurs.
Oui.
Ça augure ce qui s'est passé dans la scène 2 où je me suis fait emparer par des forces.
D'accord, ça augure ce qui va se passer. C'est ça ?
Oui.
D'accord, parce que là je ne savais pas s'il était question d'autre chose.
Non, je pense que la scène de la force qui s'empare est une conséquence directe du protocole que j'ai rendu sur le toit de l'immeuble.
D'accord. Donc cet ami s'appelle Courtois.
Oui, je le connais absolument pas, je reconnais que son nom, je ne l'ai pas vraiment fréquenté en fait.
Mais ce prénom existe ?
Pardon, c'est son nom de famille.
Ah d'accord. Mais donc c'est dans ce sens que vous l'utilisez, il est courtois.
Par rapport à la divinité, oui.
Oui. Mais c'est peut-être ce que vous êtes encore un peu trop courtois, peut-être trop poli.
On me l'a souvent dit, oui.
Et peut-être, que vous êtes aussi encore fasciné par l'amour courtois.
Bravo, on me l'a aussi reproché.
Oui, puisque donc l'amour courtois, c'est séduire en général une femme mariée. Ou la femme d'un autre. Et donc symboliquement, c'est une continuité d'Œdipe, puisque la femme mariée étant la mère.
D'accord, ça me parle beaucoup.
Et donc vous ne l'aimez pas, cette partie de vous, hein, courtoise.
Elle est belle, mais elle me fait souffrir ou elle m'empêche d'avancer.
Donc dans la deuxième séquence, c'est un ami arménien, c'est ça ?
Oui. L'Iran, parce que c'est un pays où il y avait beaucoup de minorités. Enfin, il y a toujours beaucoup de minorités.
D'accord. Et c'est dans ce sens de minoritaire que vous le prendriez, cet ami ? C'est le sentiment que vous auriez de vous-même d'être minoritaire ?
Bah, trop courtois, trop poli, on est facilement mis en minorité.
Oui.
Mais c'est aussi quelqu'un de mes... Enfin, quelqu'un qui est né dans le même pays que moi et qui a subi l'exil, tout ça, et avec qui je me sens très proche, et qui est très poli et très courtois.
Donc vous aussi, vous êtes en exil, minoritaire, donc c'est vraiment une représentation de vous-même. Mais là, vous voyez donc que de votre mère émane cette puissance qui va s'emparer de vous. Et là, on a l'impression que c'est plus que ça, puisque là, vous représentez un sabre.
Oui.
C'est ça ? Donc un sabre courbe ?
Non, il est droit, comme dans la guerre des étoiles.
Ah, donc c'est pas un sabre, c'est une épée, alors ?
Oui. Il faudrait que j'améliore mon français.
Oui, enfin, ce sont des subtilités. Le sabre, en général, est courbe. Et l'épée est droite.
D'accord.
D'accord, non, mais ça change un peu la lecture. Alors, ça veut donc dire que là, c'est votre phallus qui est donc qui est approprié par l'entité mère.
D'accord.
Et donc, toute votre puissance masculine est dévolue à la mère encore. Et vous voyez effectivement que cette appropriation que votre mère vous impose est négative, elle est satanique presque. Et là, c'est donc la puissance négative de la mère que vous voyez, que vous mettez en scène dans ce rêve.
D'accord.
Et donc il va falloir vous défaire de toute cette énergie qui vous donne beaucoup de puissance, mais une puissance qui vous dessert.
Oui,
je
la maîtrise pas du tout.
Elle est quand même lunaire, hein.
Et la couleur argentée, c'est ça ?
la couleur argentée. Donc c'est plus un principe féminin qui s'exprime qu'un principe masculin. Le principe masculin serait solaire, donc plutôt doré.
D'accord.
Alors donc la troisième séquence, excuse-moi, je ne me souviens plus.
C'est mon ami arménien, l'autre ami aussi français qui est très proche de moi. Il est très agile, très bricoleur, il va choisir un grille-pain pour la femme de mon ami arménien.
D'accord, donc là encore, c'est le bon fils. Puisque là, ce serait servir un autre couple, et ce serait donc être en représentation efficace par rapport à la mère. Vous êtes son servant, toujours courtois. Une autre facette qui s'impose, mais là on a une démultiplication, c'est-à-dire que vous vous distanciez de plus en plus de ces personnages, puisque vous ne voudriez plus être ces personnages, tellement vous les reconnaissez. Et vous pourriez vous réapproprier cette ingéniosité. Ce qui est d'ailleurs exposé dans la deuxième partie, dans la dernière partie par contre, pardon, c'est ce savant qui réside chez vous. Puisqu'on peut donc penser que ce savant, c'est cette partie de vous, la partie géniale, qui a été exploitée, que vous cherchez maintenant à faire revenir. Elle dort. Mais vous voudriez la réveiller pour vous la réapproprier.
D'accord.
Et d'ailleurs, vous constatez que votre espace est vide. Et vous savez... Alors, il y avait aussi quelque chose par rapport à... dans la séquence qui évoquait la radio avant le grille-pain.
En fait, ce savant écoute la radio. Il s'endort avec la radio.
Voilà, c'est ça, c'est dans la troisième partie.
Dans la dernière partie.
Non, mais dans la troisième, il y avait un élément...
C'est le grille-pain seulement.
Il y avait quelque chose qui m'avait suggéré la radio. Ou alors c'était l'intervention du psy dans le... Puisque cette partie analytique qui se met en place, ça pourrait être celle qui va en analyse.
De toute façon, il y a forcément une connexion avec l'analyse, vu que à la fin, j'enregistre un rêve pour vous l'interpréter.
Oui, donc, c'est
quand
même
ça. Une invitation.
Et donc, c'est par ce travail sur vos rêves que vous avez réussi à vous distancer, et à donc à réintégrer ce qui est le vrai Camillard, à vous réapproprier toutes ces données. Parce que là, on voit qu'il y a un vrai travail qui se fait. Vous vous mettez en distance, vous avez un regard très distancié par rapport à tout ce qui se peut se produire. Si au début vous êtes complètement impliqué, si vous êtes en colère même dans la première séquence, et possédé dans la seconde, on voit que de plus en plus vous vous distanciez. Et il y a donc une évolution par rapport à un travail d'introspection qui se fait, un travail d'écoute, mais aussi par, non pas seulement votre propre écoute, mais l'écoute des autres, puisque la radio, comme elle est évoquée dans le rêve, peut évoquer la fenêtre que vous ouvrez sur le monde. Et vous entendez donc des voix qui formulent des choses que vous auriez déjà pensées, mais que vous n'avez pas osé formuler.
D'accord. Et c'est la première scène d'ailleurs où il n'y a plus de principe féminin de présent, puisque ma mère est absente de cet appartement, en fait.
Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas dans l'appartement.
Oui, c'est la première scène où dans la symétrie, en fait, elle n'y est plus.
Ce ne sont que des figures masculines.
Tout à fait.
Et ce serait donc une transformation de cette énergie négative en énergie positive. Le féminin est aussi la communication, l'intelligence, le langage. Et donc le langage, que ce soit celui des autres ou le vôtre, vous a permis de vous réapproprier ces facettes masculines et de réintégrer votre espace, la chambre, en repartant de cet endroit pour vous reconstruire à l'endroit où tout ne s'est pas bien déroulé.
D'accord, ok.
Et donc là, vous notifiez que le rêve dans sa transcription est importante.
D'accord.
Exactement, est important puisque ce sera pour ta rêve. Hein. Excusez-moi de cette faute de français. Donc, c'est la dernière phrase du rêve, c'est...
Je vais dans cette chambre... J'enregistre le rêve pour que Tristan l'interprète. La porte de la chambre est délabrée, par contre.
Oui, parce que c'est un lieu un peu vétuste. Vous êtes revenu dans ces endroits, donc dans ce lieu de votre enfance où des choses se sont bloquées, pour remettre en route quelque chose, mais vous n'allez pas y rester de toute façon. Hein.
Non, c'est clair. J'étais dans le couloir. J'y vivais plus.
Et puis donc là aussi, Tristan peut faire donc allusion aussi à cette partie masculine que vous avez développée, analytique.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez sûrement aussi la capacité de décoder aussi vos rêves, de les voir, de les comprendre. En tout cas, le simple fait de noter un rêve, puisque c'est ce que vous faites dans le rêve, c'est aller dans un processus morphogène, vous donner une forme. Et comme le rêve est une émanation de notre désir, de notre être profond, chaque fois que l'on note un rêve, qu'on le met dans une forme cohérente, concrète, on donne accès à une forme intérieure qui ne demande qu'à paraître. On a accès à notre désir par le biais du rêve, et le fait de le noter est important puisque ça donne une concrétisation à ce rêve intérieur, à ce désir intérieur. Et là, c'est ce que vous enjoint de faire le rêve, c'est de davantage encore aller dans ce processus d'introspection, maintenant que vous êtes à ce stade où l'homme est en train de reparaître. Et
D'accord.
l'homme savant, l'homme qui sait qu'il y a un savoir. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le petit enfant qui peut se laisser impressionner par la puissance de la mère, vous êtes l'homme érudit qui a un savoir et qui peut donc justifier ses choix, ses désirs par rapport à des références personnelles. Et aussi extérieur, puisque par la radio, vous avez accès à la vie des autres, comme dans cette émission, où chaque rêve va livrer une partie de vie de quelqu'un où chacun peut se reconnaître.
Ben, long travail m'attend.
Ben non, je dirais que ce travail long a déjà été fait, qu'il est en cours, et que vous continuez.
Mais j'ai pas l'impression vraiment d'avancer en fait.
Ben ce n'est
Toujours
pas ce que
c'est.
dit le rêve, hein. Puisque là, ce serait comme une sorte de rêve bilan d'où vous venez, le travail que vous avez déjà fait et où vous allez, quoi, à l'intérieur de vous. Pourquoi voudriez-vous, pourquoi aimeriez-vous que le chemin soit long?
Ça doit être un reste de mon éducation chez les jésuites, qu'il faut un petit peu de souffrance, tout ça, pour y arriver.
Oui, mais ça peut être aussi la justification d'un état. Tant que je suis dans cet état, je ne ferai rien. Tant que je suis malade, entre guillemets, je ne peux rien faire d'autre. Puisque si vous n'aviez plus l'étiquette de personne qui ne va pas bien, vous seriez obligé de produire, de ne pas vous plaindre et d'avancer comme tout le monde, et d'agir en conquérant, donc de ne plus aller vers la femme mariée, mais vers la femme disponible.
D'accord.
Ça peut faire peur.
D'accord, je comprends ce que vous m'indiquez. D'ailleurs, je viens de rompre. La personne avec qui j'étais a rompu. Enfin bon, c'est pas. La personne était mariée. Son statut.
Tiens donc.
Et donc c'était une maman d'ailleurs, et celle d'avant était une maman, et puis là je me dis peut-être que il faut que, comme vous dites, le futur est à construire et essayer différemment.
Oui, avec une femme non mariée, sans enfant, libre, quoi. Mais ça peut faire peur, hein.
Je vais réfléchir à ça effectivement,
Parce que ce serait un
pourquoi est-ce
engagement.
que il y aurait une peur.
Bah, par peur de l'engagement, des responsabilités que ça impliquerait, puisque vous seriez obligé de rester avec.
Ça me parle beaucoup.